Vous pouvez vous asseoir et chercher dans vos Bibles nos lectures bibliques ce matin. La première étant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. L'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, à la page 174 de notre Nouveau Testament. Avant d'écouter les versets 6 à 11 de ce magnifique chapitre, nous prions d'abord un moment ensemble. Notre Père, avec tous tes enfants aujourd'hui qui s'assemblent partout sur la terre pour écouter ta parole, nous invoquons ton nom. Donne-nous, nous t'en prions, l'intelligence pour comprendre ta vérité. Tes préceptes sont la joie de nos cœurs. Affermis nos pas dans tes promesses. Ta loi fait nos délices. Aide-nous à observer ta parole. Mieux vaut pour nous ta parole que 1000 objets d'or et d'argent. Incline nos cœurs vers tes préceptes. Accorde-nous la grâce de te suivre jusqu'à la fin. Nous t'en prions. À qui irions-nous? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Fais-nous du bien ce matin, car nous cherchons à mieux te connaître et à mieux t'aimer. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Écoutons une première lecture de la parole de Dieu en Romains 5, les versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et puis tournons une deuxième lecture en Colossiens 1, à la page 227. Colossiens 1, nous écouterons la lecture des versets 19 à 23. Colossiens 1, 19 à 23. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. » Un traducteur de la Bible qui travaillait en Amérique du Sud cherchait le bon mot pour traduire le mot « réconciliation » ou « réconcilier » dans ses efforts pour bien traduire la Bible. Il cherchait un mot approprié qui serait le meilleur pour les Indiens Oka dans lequel, parmi lequel il travaillait. Il n'en trouvait pas et un jour qu'il accompagnait les Indiens Oka dans la jungle, ils sont arrivés à un moment donné devant un ravin, ils ne pouvaient pas traverser, ne pouvaient plus avancer, mais les Indiens Oka ont pris leur machette, ils ont coupé un arbre qui est tombé et qui a permis à ces gens-là, de traverser par-dessus le ravin. Et le traducteur s'est rendu compte que les Indiens Oka utilisaient un mot particulier dans leur langue qui voulait dire « arbre traversant le ravin ». Et il s'est dit « voilà mon mot ». C'est le meilleur mot pour exprimer le sens du mot « réconciliation ». Il s'est dit « le grand ravin qui sépare l'homme pécheur du Dieu saint a pu être traversé grâce à Jésus-Christ ». Jésus nous réconcilie avec Dieu. Il est notre arbre traversant le ravin. Dans son épître aux Colossiens que nous continuons de méditer, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, nous instruit sur cette œuvre gigantesque de réconciliation que le Fils de Dieu a accomplie en notre faveur. Commençons par bien connecter les versets qui sont devant nous ce matin, c'est-à-dire les versets 20 à 23, avec ce que nous avons vu dimanche dernier, c'est-à-dire les versets 15 à 19. Les versets 15 à 19 forment une unité qui, nous l'avons vu, avait comme thème principal la prééminence de Jésus-Christ sur la création et sur la rédemption. C'est un des passages parmi les plus importants, passage christologique qui nous parle de la vie, l'œuvre, la nature de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Nous avons vu que ces versets 15 à 19 nous présentaient plusieurs caractéristiques uniques du Fils de Dieu qui lui permet d'être notre seul Sauveur. Et vers la fin de la semaine dernière, je vous avais dit, on a vu 6 caractéristiques, mais il y en a une 7e que nous verrons la semaine prochaine au verset 20 à 23, et nous sommes rendus, cette semaine prochaine, nous sommes rendus à cette caractéristique merveilleuse ici dans ces versets 20 à 23 qui nous présente le Fils de Dieu comme le grand pacificateur, le grand réconciliateur des hommes avec Dieu. Je relis les versets 19 et 20. Suivez bien avec moi dans vos Bibles. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Ces versets nous parlent de la réconciliation. Le verset 22 et 20 nous en parle. Le verset 20 nous dit que la réconciliation s'est faite par le sang de sa croix. Le verset 22 nous dit que la réconciliation s'est faite par la mort dans le corps de sa chair. Autrement dit, le Fils de Dieu est le grand pacificateur. C'est lui qui vient accomplir et nous obtenir la réconciliation avec Dieu, bien sûr, si nous sommes dans la foi, si nous croyons dans le Fils de Dieu. J'aimerais faire ce matin 4 observations sur ces versets qui sont devant nous, en nous souvenant que le thème de ces versets, c'est qu'autrefois ennemis de Dieu, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. C'est le titre du message, c'est le thème de ces versets. Mais j'aimerais faire ce matin 4 observations sur ces versets qui sont devant nous. Première observation, la réconciliation implique une rupture des relations entre Dieu et les êtres humains. La réconciliation présuppose une inimitié entre nous et Dieu et entre Dieu et nous, une guerre ouverte en quelque sorte. Notre péché est la cause de cette inimitié, de cette hostilité de notre part à l'égard de Dieu. Le prophète Ésaïe dit « Nos fautes ont placé une séparation entre Dieu et nous et nos péchés nous cachent sa face ». La vérité, c'est que quand nous venons au monde, dans cette humanité déchue, eh bien, nous sommes en guerre ouverte contre Dieu. Par nature, nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées. C'est ce que Paul dit au verset 21. Nous étions ennemis et étrangers par nos pensées. Et cette hostilité contre Dieu dans nos pensées se déplace dans nos actions, c'est ce que Paul dit aussi au verset 21. Il parle des œuvres mauvaises, des conduites anti-Dieu ou contre Dieu. que nous avions, hein, nos pensées, notre conduite, nos œuvres mauvaises. L'humanité n'aime pas se faire parler de cette façon. L'humanité n'aime pas se faire dire qu'elle est ennemie de Dieu, que ses pensées et ses œuvres sont contre Dieu. L'humanité préfère penser que son opinion à elle, qu'elle est bonne, qu'elle est même très bonne, que c'est la vérité, mais Dieu est très bon de nous dire la réalité véritable de ce qui nous concerne, et il nous apprend que par nos pensées, par nos œuvres, nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes étrangers, nous vivons contre Dieu, nous avons besoin donc d'être réconciliés avec Dieu. Il y a cette inimitié de nous contre Dieu, mais il y a aussi une inimitié de Dieu contre nous, et l'inimitié de Dieu contre nous n'est pas une inimitié pécheresse. Il n'y a pas de méchanceté ou de malice, mais à cause de nos fautes, Dieu a, à notre égard, on pourrait dire un saint dégoût. À cause de nos péchés, à cause de notre révolte et rébellion contre lui, Dieu ne peut pas nous recevoir favorablement en nous-mêmes, tels que nous sommes. Nous avons besoin de cette réconciliation que vient opérer le Fils de Dieu. Grâce à Jésus, le dégoût que Dieu a de nous disparaît et est remplacé par cet amour extraordinaire que Dieu manifeste à notre égard. Parce qu'il y a une substitution, hein, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a cette substitution, le Fils de Dieu qui prend sur lui nos péchés, notre condamnation, notre malédiction, et qui nous donne sa justice. Nous sommes revêtus de la justice du Fils de Dieu de la Bible. Nous sommes habillés des vêtements du salut que nous donne le Fils de Dieu parce que lui vient prendre sur lui nos fautes, notre culpabilité qui est immense. Hein? Et cette réconciliation, bien, c'est le comble de l'amour et de la grâce de Dieu à notre égard. Dieu l'accomplit en la personne de son Fils. Dieu prend l'initiative lui-même de venir vers nous pour opérer la réconciliation, pour enlever le fondement de l'offense que nous avions contre lui. Jésus est notre arbre traversant le ravin. Si nous croyons en lui, nous sommes en paix avec Dieu. Le temps du verbe utilisé par Paul au verset 22 implique que c'est un fait accompli, effectué une fois pour toutes. Il dit aux Colossiens, « Il vous a réconciliés. » C'est fait, c'est l'œuvre de Dieu. Et il vous a réconciliés. La réconciliation avec Dieu n'est jamais quelque chose qui repose sur une amélioration de notre conduite par nos propres efforts ou quelque chose du genre. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une œuvre accomplie par le Fils de Dieu. Le réformateur Jean Calvin dit, « Souvenons-nous que le sang du Christ est le seul prix de la réconciliation. Et par conséquent, que tout ce que les incrédules gazouillent à propos de leur soi-disant bonne vie est en réalité un blasphème contre Dieu. Ce n'est pas par notre soi-disant bonne vie qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est uniquement par le sacrifice du Fils de Dieu. La confession de foi de La Rochelle dit les choses d'une manière magnifique. Je vous lis un petit paragraphe de cette confession de foi. Nous croyons que par le sacrifice unique que le Seigneur Jésus a offert sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Afin d'être tenus pour justes devant lui et considérés comme tels. Nous affirmons que Jésus-Christ est notre intégrale et parfaite purification et que nous ne pouvons être délivrés que par ce moyen. Nous croyons qu'en nous écartant si peu que ce soit de ce fondement, l'obéissance de Jésus-Christ, nous ne pourrions trouver ailleurs aucun repos, mais que nous serions tout le temps rongés par l'inquiétude, puisque pris en nous-mêmes, nous sommes dignes d'être haïs par Dieu, et que nous ne serons jamais en paix avec Dieu jusqu'à ce que nous soyons fermement convaincus d'en être aimés en Jésus-Christ. C'est de toute beauté. C'est tellement précieux. Quel repos nous trouvons dans la réconciliation que le Fils de Dieu nous procure. Quel repos! Quel magnifique repos! Deuxième observation. La réconciliation dont le verset 20 parle en disant « Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux » ne signifie pas que le diable, les démons et les ennemis de Dieu de tous les temps seront sauvés. Parfois, il y a des personnes qui prennent ce verset et qui tirent la conclusion que cette réconciliation gigantesque va faire en sorte qu'ultimement, tout le monde sera réconcilié avec Dieu, même le diable, les démons, les ennemis de Dieu. Il faut faire bien attention pour comprendre ce verset 20 à la lumière de tout le reste de l'Écriture sainte. L'apôtre Paul n'enseigne pas ici l'universalisme. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé du châtiment éternel pour ses ennemis. Il n'est pas question, quand nous lisons ce verset 20, de conclure que le diable sera sauvé, que tous les ennemis de Dieu seront sauvés. Ce n'est pas de ça que ce verset parle ici, bien que le diable puisse se servir d'une mauvaise interprétation de ce verset pour endormir les incrédules jusqu'à ce qu'ils se réveillent en enfer. Ça pourrait arriver qu'il ait ce piège, ce truc, l'ennemi, mais ce n'est pas ce que Paul enseigne ici. La signification de la réconciliation grandiose dont il parle ici, on pourrait dire la signification de cette réconciliation cosmique à grande échelle, est celle qui est évoquée en Romains 8, qui nous parle du fait que le péché n'a pas seulement déréglé les êtres humains avec Dieu, mais le péché a abîmé la création au complet. Vous vous souvenez, le sol a été maudit. Il y a eu plein de dérèglements, de désordres dans toute la création du Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul ici évoque les nouveaux cieux, la nouvelle terre que nous attendons, où la justice habitera. Et il dit en Romains 8, 21, « La création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Paul parle du grand résultat ultime et final de l'œuvre accomplie par le Christ Jésus qui a versé son sang. Non seulement les rachetés du Seigneur sont réconciliés et en paix avec leur Créateur, mais toute la création va être rétablie dans une harmonie, une perfection, un bonheur total. L'humanité sera entièrement pacifiée avec Dieu, cette humanité rachetée par le Fils de Dieu. Ici, on trouve que cette réconciliation est gigantesque. On pourrait se demander, mais est-ce que le Fils de Dieu, par son sang, par sa mort, a le pouvoir d'accomplir une telle réconciliation sur une si grande échelle? Et bien sûr que oui, nous l'avons vu dans les versets 15 à 19. Nous avons vu que ce Fils de Dieu, il est créateur, il a tout créé, tout existe pour lui. Il est le chef, il est le premier-né, il est la résurrection. Et le verset 19 nous dit que la plénitude de la divinité habite en lui. Donc, par le fait même, la plénitude de tous les dons, de tout ce qui est nécessaire pour accomplir la purification, c'est en Jésus-Christ, et bien sûr qu'il est suffisant pour ça. Il a plu à Dieu, dit Paul. C'était le plaisir de Dieu. C'était le bonheur de Dieu. Dieu trouvait plaisant et agréable d'orchestrer notre réconciliation, de travailler à notre salut. C'est merveilleux. De toute éternité, dans la sagesse, l'amour, la puissance de Dieu, Dieu le Père, il lui a plu de préparer cette réconciliation. C'est vraiment bouleversant quand on pense à ces versets et aux versets de la semaine dernière, et même aux versets de la semaine précédente, au verset 14, il nous a obtenu la rédemption, le pardon des péchés. Puis ensuite, dans les versets 15 à 19, on nous défile les attributs extraordinaires du Fils de Dieu. Pour revenir ici au verset 20 à 23, il nous parlait du sang de la croix, du corps de sa chair. Imaginez la grandeur du Fils de Dieu, la hauteur, la majesté que nous avons chanté tantôt du Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça lui a coûté pour nous réconcilier? Il a accepté de descendre, d'être humilié, d'être méprisé, on lui a craché dessus. Imaginez le sujet de méditation qui est devant nous quand nous considérons sa grandeur, sa hauteur, sa majesté, sa bonté, et de voir ce que ça lui a coûté pour nous délivrer de notre rébellion, de nos péchés. C'est quelque chose de stupéfiant quand on y pense bien. Le sang de sa croix, la mort dans le corps de sa chair. Il y a de quoi adorer ici et célébrer notre Dieu. Troisième observation, le but de la réconciliation, nous dit Paul au verset 22, est de nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Ceci est très important et tellement beau et grand. Nous lisons au verset 22, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Il vous a maintenant. C'est merveilleux, c'est pas juste une vague idée hypothétique dans un lointain futur, peut-être, mais Paul veut que les Colossiens et que nous sachions que l'œuvre de Jésus fait en sorte que nous sommes maintenant réconciliés par la mort de Jésus, dans le but de nous transformer pour que nous soyons saints, sans défaut et sans reproche. La Bible parle avec force, elle dépeint avec la plus grande noirceur l'homme sans Jésus-Christ, mais elle donne à l'homme uni à Jésus-Christ la vision la plus noble, digne et élevée. Saint, sans défaut et sans reproche, c'est ce que nous devrions être, mais que nous ne sommes pas. En nous-mêmes, par nous-mêmes, à cause de notre nature pécheresse. Mais c'est ce que nous sommes appelés à être, parce que nous allons nous présenter devant Dieu au jour dernier, nous serons saints, sans défaut et sans reproche. Mais c'est quand même aussi ce que nous sommes appelés à devenir, ici, maintenant, devenir de plus en plus ce que nous sommes en Jésus-Christ, ressembler de plus en plus à notre Sauveur. Le réformateur Martin Luther aimait utiliser l'analogie suivante. Un homme est atteint d'une maladie mortelle. Un médecin se présente et a le remède pour guérir cet homme. L'homme prend le remède. Le médecin lui dit qu'il va mieux, bien que ça prenne un peu de temps avant que le remède fasse tout son effet. Il en est de même pour nous, dit Luther, avec notre réconciliation, aussitôt que nous croyons, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous commençons à mieux aller. Mais le processus de devenir pur et saint est en route. Sa plénitude future est certaine. On peut dire les choses autrement. Par la mort sacrificielle de son Fils, Dieu réconcilie le pécheur avec lui. Mais le Dieu réconcilié ne s'arrête pas là, il opère par l'esprit dans la vie du réconcilié des transformations, des changements, petit à petit, par degrés, pour que le réconcilié entre de plus en plus pleinement dans l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu. Le premier fruit de la mort de Jésus-Christ pour le croyant, c'est la réconciliation avec Dieu, pardon des péchés, la justification. Mais ces actes de la grâce divine, en introduisant l'homme dans une vie nouvelle, produisent par la suite, infailliblement, en lui, par degrés, des transformations, la sanctification du cœur, de la conduite. C'est un fruit de l'œuvre du Sauveur. S'il n'y a pas de sanctification, la réconciliation était une illusion. Autrement dit, Dieu ne nous sauve pas pour qu'on continue notre vie de rebelle. Il nous sauve pour qu'on vive d'une manière nouvelle, différente. Dieu nous réforme à l'image de son Fils par le Saint-Esprit, qu'il est bon, qu'il est bon. Ayant reçu une vie nouvelle, nous voulons vivre en accord de plus en plus avec cette vie nouvelle que le Seigneur commence à produire, à recréer en nous, qui sera dans toute sa plénitude, bien sûr, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que notre vie chrétienne se vit avec une rupture radicale avec le péché, avec l'amour du péché. Le petit catéchisme de Westminster définit admirablement la nature de la repentance quotidienne que doit pratiquer le croyant. Dans ce processus de transformation, le catéchisme dit « La repentance pour la vie éternelle est une grâce salvatrice par laquelle le pécheur, vivement touché de son péché, s'empare de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, se détourne avec douleur et haine de son péché, pour se tourner vers Dieu avec la ferme intention de vivre dans une obéissance nouvelle et d'y persévérer. » Bien sûr, pour ceux qui connaissaient bien l'Épître aux Colossiens, les chapitres 3 et 4, Paul va revenir beaucoup, beaucoup plus sur la sanctification. Quatrième et dernière observation sur ce texte. Les réconciliés doivent demeurer dans la foi, fondée et établie pour ne pas être emportée loin de l'espérance de l'Évangile. Je relis ici le verset 23. « Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie pour ne pas être emportée loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Juste en parenthèse, c'est extraordinaire de voir « moi, Paul, je suis devenu le serviteur de l'Évangile. » Lui qui était un destructeur de l'Évangile, un ennemi de l'Évangile. Il ravageait l'Église, il tuait, il mettait à mort les chrétiens. Il est un serviteur de l'Évangile. Vous voyez la transformation puissante opérée par le Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Je ferme la parenthèse. La région de Colosse était une région où il y avait souvent des tremblements de terre. Quand vous regardez l'histoire de cette ville vers la fin du 1er siècle, elle a été détruite au complet par un tremblement de terre. Et peut-être que l'apôtre Paul avait à l'esprit cette réalité lorsqu'il utilise les mots ici « fondé et établi » pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile. L'espérance de l'Évangile, quelle belle expression! Cet Évangile si précieux, la vraie foi, dit en d'autres mots l'apôtre Paul, n'est pas semblable à une opinion qui a été branlée par divers mouvements, mais elle est une constance ferme qui peut résister à tous les bouleversements. C'est une foi solide. L'amour réconciliateur du Fils envers les Colossiens doit porter les Colossiens à rester fermes dans la foi, rester solidement attachés à l'Évangile, ne pas s'égarer, ne pas se laisser entraîner, loin de ce trésor, de la grâce immense qui leur a été faite. Ils ont été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de son Fils, auquel ils doivent maintenant demeurer dans la foi. Si vraiment vous demeurez dans la foi, ce n'est pas un si de doute, mais c'est un si d'avertissement qui nous rappelle que nous avons notre partie à faire. Évidemment, il n'y a personne qui peut demeurer ferme dans la foi par ses propres efforts, par ses propres ressources, par sa propre force. Personne. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, pour demeurer ferme dans la foi et dans l'Évangile. En même temps, la Bible nous fait comprendre que c'est à nous de saisir les moyens que Dieu nous donne pour nous fortifier, nous affermir dans la foi. Paul dit en d'autres mots, vous ne devez pas retourner et retomber dans votre vieille vie et vos vieux vices. Vous devez rester attaché à ce que vous avez reçu. C'est une exhortation à la persévérance. Dieu multiplie dans sa parole les exhortations à la persévérance parce qu'il veut qu'on persévère. Et par ces exhortations, il nous fait persévérer. Il nous met en garde contre le danger de l'apostasie, de ceux qui font naufrage. Deux choses pour conclure. Une personne dévouée aux soins des blessés de guerre entre un jour dans une tente où se trouvent plusieurs soldats dans un état grave. Se penchant vers un des soldats, elle dit « Comment puis-je vous aider ?» Et l'angoisse se lit sur le visage de ce soldat et il dit « Pouvez-vous effacer mon passé ? Pouvez-vous effacer mes péchés ? Pouvez-vous effacer mes fautes ? Pouvez-vous faire disparaître tout ce que j'ai fait de mal ?» C'est vrai que notre passé inclut beaucoup d'horreurs, d'erreurs et d'horreurs et de faux. Notre passé nous accable parfois. Quelqu'un a-t-il le pouvoir de faire disparaître nos péchés du passé? Oui, Jésus-Christ peut. C'est ce qu'il est venu faire pour nous réconcilier avec Dieu. Lui seul peut couvrir nos péchés qui nous condamnent. Grâce à Jésus-Christ, Dieu nous dit cette parole qu'on trouve dans l'Ancien Testament, « J'ai effacé tes péchés. J'ai effacé tes péchés. Nous sommes réconciliés. Viens, entre dans la joie de la réconciliation. » Deuxième chose, écoutez bien ces quelques mots qu'on a lus en Romains 5. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Impossible de trouver une meilleure nouvelle que celle-là. Amen.